Théologie fondamentale, Père Philippe, 6 janvier 1983, Rimont.
Oui, petite question avant d'entrer, de reprendre ce que nous avions vu. La connaissance per impressionem dont on parlait ce matin, dont parle saint Thomas, est-elle vraie en ce qui concerne la connaissance, ou plutôt la lumière de foi? C'est par rapport à la lumière de foi qu'on peut dire que la lumière de foi est comme une impression de la lumière de Dieu en nous. C'est l'habitus de foi vient déterminer l'intelligence et l'orienter vers Dieu. C'est le propre de l'habitus de foi. Nous le verrons du reste. Il faut bien. Le cours, c'est rapport et foi. Vous comprenez bien que nous touchons le premier problème ici. Ensuite, il faudra un tout petit peu essayer de comprendre ce que c'est que la foi pour mieux comprendre. Alors, on peut dire que d'une certaine manière, il y a dans toute parole de Dieu, il y a une présence de la lumière. La loi est dite lumière. La parole de Dieu est dite lumière. Et la foi recevant cette parole, dans son acte de foi, elle est donc liée à cette lumière divine. Je ne peux pas dire que l'habitus de foi soit l'impression de la lumière de Dieu en moi. L'habitus de foi. Mais la parole de Dieu, oui, beaucoup plus. La parole de Dieu est vraiment une lumière qui m'est donnée. Par la parole de Dieu, je suis conduit de lumière en lumière, en attendant le face-à-face. Ou alors il n'y aura plus per impressionem. Ce sera le verbe direct. Est-ce qu'on peut dire que l'habitus de foi est une impression de la lumière de Dieu en moi? C'est très délicat, ça. Je n'ai pas envie de traiter ça maintenant. Je le dis de la parole. Mais voyez, l'habitus est moins proche. Parce que l'habitus est une détermination qui surélève mon intelligence, qui me permet de recevoir la lumière de Dieu. Donc il y a une connaturalité entre l'habitus de foi et la lumière de Dieu, c'est sûr. Mais est-ce que l'habitus de foi est-il l'impression de la lumière de Dieu en moi? C'est plus difficile de le dire. Il est une capacité à recevoir cette impression. Mais il n'est pas au sens strict une impression. Mais on le verra, ça. À propos, gardez votre objection, c'est bon. Ça vous fait progresser, vous savez, quand vous avez des questions. Alors, nous allons continuer. Nous étions arrivés, je crois, à la question, à l'article à propos de la sagesse, n'est-ce pas ? Le point de vue de la doctrine sacra est-elle une sagesse ? Puis, l'article 7, Dieu est-il le sujet de cette science ? Enfin, c'est bien là. On doit considérer comme le sujet d'une science cela même dont on parle dans la science. Or, dans la science sacrée, on discourt de Dieu, d'où son nom de théologie. Autrement dit, de discours ou de parole sur Dieu. Dieu est donc le sujet de cette science. Dieu est effectivement le sujet de la doctrine sacrée. Il y a même rapport, en effet, du sujet d'une science à la science elle-même. Donc, il y a même rapport du sujet d'une science à la science elle-même que de l'objet à une puissance de l'âme ou à un habitus. C'est le parallélisme qu'on avait déjà vu, n'est-ce pas, entre le point de vue du sujet et de la science et le point de vue de l'objet et de la puissance. On confond très facilement sujet et objet. Et quand vous dites par exemple que l'objet de la métaphysique, c'est l'être, ce qui est en tant qu'être, saint Thomas nous dit que c'est le sujet. Oui. Et vous dites l'objet, du moins, on dit l'objet habituellement, parce qu'on passe très facilement de l'un à l'autre. C'est cette petite analogie que saint Thomas souligne qui est très intéressante. Or, on assigne proprement comme objet à une puissance ou à un habitus ce qui détermine le point de vue sous lequel toute chose se réfère à cette puissance ou à cet habitus. Ainsi, l'homme et la pierre se réfèrent à la vue selon qu'ils sont colorés. Et c'est pourquoi le coloré est l'objet propre de la vue. Si je vois l'homme, c'est parce qu'il est coloré. Si je vois la fleur, c'est parce qu'elle est colorée. Et donc, c'est cela qui est la raison formelle qui spécifie mon objet, qui spécifie ma puissance. Or, dans la science sacrée, tout ne se traite que sous la raison de Dieu, ou au point de vue de Dieu. Soit que l'objet envisagé soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme principe, ou à Dieu comme fin. D'où il suit que Dieu est vraiment le sujet de cette science. Ceci d'ailleurs est aussi manifeste si l'on envisage les principes de notre doctrine, qui sont les articles de la foi, laquelle concerne Dieu. Or, il y a identité dans une science entre le sujet des principes et celui de la science tout entière. Toute la science étant contenue virtuellement dans ses principes. C'est très joli comme chose. Hein? Certains, toutefois, considéraient les choses même dont traite cette science et non le point de vue sous lequel elle les envisage. En ont assigné autrement la matière. Ainsi parle-t-il de choses, res, et de signes, ou des œuvres de la réparation, ou de tout le Christ, à savoir le chef et les membres. Il est bien traité de tout cela dans notre science, mais c'est toujours par rapport à Dieu. Et ceux qui voudraient définir la théologie par la christologie, par exemple, en disant c'est le Christ et l'Église. Voilà la théologie. Certainement montre que ça c'est matériel de dire ça. Parce que vous traitez du Christ en tant qu'il est Dieu. Et vous traitez de l'Église en tant qu'elle est divine. En tant qu'elle est révélée. Donc tout est bien traité en théologie sous le point de vue de la raison de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me parle et c'est Dieu qui me parle de lui. Et chaque fois que Dieu parle d'autre chose que de lui, il me parle de cela en référence à lui. Donc c'est bien toujours de Dieu dont on parle. Et c'est pour ça que je peux dire que le sujet de cette science, c'est bien Dieu. Parce que c'est Dieu qui me parle, et Dieu, quand il me parle, parle toujours pour que ça se ramène à lui. Oui, c'est pour ça qu'on peut le dire. Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est ce que représente cette petite analogie que fait saint Thomas ici. Le sujet est en science ce que l'objet est à la puissance de l'âme. On va essayer de comprendre ça. Ça, c'est beaucoup plus général. Hein, quand on donne ça, ça va de soi pour saint Thomas, hein, c'est évident. Je ne sais pas si ça va de soi pour vous, mais ce n'est pas si commode que ça à saisir immédiatement. N'est-ce pas? Il le met, hein. Il y a même rapport, le texte latin c'est sic se habet, sic se habet, subjectum actientiam, sicut objectum et potentiam. C'est l'habitude. L'habitus, c'est la science. Hein. Là, vous voyez, quand saint Thomas dit ça, si je pousse un peu, l'objet à l'égard de la science a un même rapport que le sujet par rapport à la science. La science est un habitus. Et donc l'objet par rapport à l'habitus et le sujet par rapport à la science. Vous voyez que le parallélisme, hein? Alors évidemment que c'est le même rapport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est ça qui est intéressant à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objet, c'est quelque chose de plus connu que le sujet. L'objet, c'est ce qui spécifie. L'objet, c'est ce qui détermine. La raison formelle, la ratio formalis, objectif, c'est ce qui détermine d'une manière ultime. Donc, détermine d'une manière tout à fait précise. C'est la raison formelle de l'objet. Ça, il faut le connaître, savoir ça. Rappelez-vous donc que l'objet, c'est le principe de détermination et de spécification de la connaissance. Donc, de la faculté de connaissance. Donc, le sujet a le même rapport, c'est donc ce qui spécifie cette science, vous voyez, et c'est là où c'est la difficulté. Parce que le sujet de la science, au point de vue logique, c'est ce à quoi tout est déterminé. La science regardera, par exemple, je ne sais pas, regardera telle matière, on étudiera le vivant. Quand il dit « j'étudie le vivant », c'est-à-dire qu'on essaiera de comprendre ce qu'est le vivant et tous les attributs du vivant. Donc tout ce qui lui est attribué. Alors « sujet » prend là le terme de « sujet », ce à quoi on attribue quelque chose. N'est-ce pas? C'est la signification du sujet au niveau logique. Au niveau logique, le sujet, c'est ce qui est déterminé par tous les attributs. Tout ce qui est attribuable à un sujet. Alors quel est le lien avec le fait que l'objet, c'est ce qui détermine. Or, il y a un lien analogue entre l'objet et la puissance, au sujet et la science. Quel est le lien entre les deux? Vous voyez, c'est plus complexe la question du sujet. Parce que l'objet, c'est jamais ce à quoi j'attribue quelque chose. Tandis que le sujet peut être ce à quoi j'attribue quelque chose. Quand je prends le sujet, ce à quoi j'attribue quelque chose, vous comprenez que ce sujet-là n'est pas précisément ce qui détermine la science. Qu'est-ce qui détermine la science? C'est l'attribut. Puisque c'est l'élément détermination par rapport au sujet. Le sujet, c'est ce qui est déterminable. Donc ce qui est déterminable n'est pas ce qui spécifie. Parce qu'il est déterminable. Donc il n'est pas ce qui spécifie, il n'est pas déterminé. Alors vous voyez qu'il faut bien comprendre, quand je regarde le sujet, les attributs attribués au sujet déterminent la science. C'est donc le sujet en impliquant ses attributs. Alors là, c'est très juste. C'est le sujet impliquant ses attributs qui détermine. Et alors, c'est vrai. C'est le composé, si vous voulez. Le sujet de science. Donc, en théologie, quel est le sujet de la science? Je dis que c'est Dieu. En théologie, tout est attribué à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et c'est parce que tout est attribué à Dieu, d'une manière ou d'une autre, je peux en théologie étudier ce que c'est que l'homme. Mais si j'étudie l'homme en théologie, je l'étudie l'homme en tant qu'il est l'image de Dieu. Donc dans sa relation vis-à-vis de Dieu. Quelle relation l'homme par rapport à Dieu? Je peux étudier en théologie, je ne sais pas, les sacrements, relation des sacrements par rapport à Dieu. Oui. Donc tout est étudié en référence à Dieu. Et Dieu est celui auquel est référé tout cela. Et toutes ces références, donc tous les attributs qui sont donnés à l'égard de sujet, viennent déterminer cette science. La théologie, c'est la science de Dieu, c'est la science de Dieu. Et qui regardera toute chose en tant qu'elle se réfère à Dieu. Et aujourd'hui, par exemple, on dira, on fait la théologie des communications. Faire la théologie des communications. Ça se dit, faire la théologie des communications. Alors, vous voyez, TGV. Théologie des communications. Ministre des communications. Alors, est-ce que c'est un objet qui peut être les mass médias, je vais faire la théologie des mass médias. Est-ce que c'est théologique? C'est théologique dans la mesure où ce que j'étudie est en référence avec Dieu. Si ce que j'étudie n'a pas de référence immédiate avec Dieu, on ne peut pas dire théologique. C'est l'homme qui est en référence avec Dieu. C'est l'homme qui se sert de tel outil. Et qui se servant de cet outil va lui permettre de gagner du temps, va lui permettre de telle ou telle chose. Alors à ce moment-là, je comprends la théologie des communications pour l'accélération du mouvement. N'est-ce pas ? Mais au fond, c'est par rapport à l'homme. C'est pas en soi. Un instrument n'est pas relié directement à Dieu. Donc je ne fais pas la théologie de l'instrument. Mais je fais la théologie de l'usage de cet instrument en tant que cet usage de cet instrument peut m'éloigner, m'écarter de Dieu. Oui. Vous voyez, c'est important parce qu'aujourd'hui on emploie le mot théologique d'une manière tellement vaste qu'on ne sait plus du tout ce qu'on veut dire. C'est pour ça que c'est important de se rappeler que le sujet de la théologie, c'est Dieu. C'est tout ce qui est en référence avec Dieu. Quelque chose qui n'est pas en référence avec Dieu n'est pas, fait pas partie de la théologie. Oui ?
Est-ce que le sujet ici est adéquat avec Aston ?
Adéquat, non ? Avec Aston. Oui, d'une certaine manière, c'est la réalité en tant qu'elle est connue, voyez, en tant qu'elle est connue dans son, en tant qu'existante. Oui, en tant qu'existante, c'est Dieu en tant que, voyez, par exemple, le sujet de la théologie, ce sera parler de l'exister de Dieu. C'est les castons. C'est Dieu qui existe. Quoi ? L'objet serait les attributs, plus les principes. Vous voyez, au fond. L'objet d'une science, c'est quoi, au sens strict, sont les principes. C'est ça qui détermine la science. C'est les principes. Alors, vous voyez, les principes et le sujet ont même extension. Mais le sujet, c'est Dieu, c'est pas Dieu qui est principe. On peut dire que c'est Dieu qui m'illumine, alors en tant qu'il m'illumine, en tant qu'il illumine, il est source. Vous voyez ? Mais au fond, la théologie, elle, regardera Dieu comme sujet. On ne dira pas que le principe de la théologie, c'est Dieu. Et on dira que la foi est source de la théologie. Et la foi adhère à Dieu. Et c'est pour ça, en ce sens-là, on peut préciser. C'est analogue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez ? Il faut bien comprendre que c'est analogue. Je ne peux pas parler de objet et de sujet l'un par rapport à l'autre. Je vois qu'il y a quelque chose de semblable entre les deux, c'est que je vois que, de fait, l'objet est directement ce qui détermine l'habitus et la puissance de l'âme, ce qui spécifie le sujet. Si je prends le sujet formellement, le sujet détermine ma science. Si je prends matériellement, le sujet ne détermine pas ma science. Vous voyez ? Et je ferai la même chose du côté de l'objet. L'objet matériel ne détermine pas la faculté, la puissance. C'est l'objet pris formellement, la ratio formalis. Oui. Qu'est-ce que vous direz comme l'objet de la métaphysique ? L'objet de la métaphysique ou le sujet de la métaphysique ? Ce qui est en tant qu'être. C'est le sujet de la métaphysique. Parce que quand il s'agit d'une science, je ne parle pas d'un objet de science. Sauf, je dirais, qu'est-ce qui spécifie cette science ? Ce sont ses principes. C'est pour ça que quand quelqu'un disait, quand Gilson dit par exemple que la métaphysique de saint Thomas n'est pas la même que celle d'Aristote, il faut lui poser la question, dites-moi quel est le principe nouveau qui est dans la métaphysique de saint Thomas et qui n'est pas dans celui d'Aristote. Si vous découvrez un principe que saint Thomas se sert, qu'il a découvert en métaphysique et qu'Aristote n'a pas découvert, j'accepte que ce n'est pas la même science. Mais si, de fait, il n'y a pas de nouveau principe, il n'y a pas de nouvelle science. Parce que le principe détermine. Le principe vraiment spécifie, au sens absolu. Alors, première objection. Toute science, dit en effet Aristote, suppose connue la nature de son sujet, ou ce qu'il est. Or, cela ne se réalise point pour cette science. Vu que selon saint Jean Damascène, dire de Dieu ce qu'il est nous est impossible. Dieu n'est donc pas le sujet de cette science. Et ça, c'est assez gros comme objection. C'est assez intéressant. Il est vrai, répond saint Thomas. Nous ne pouvons pas savoir de Dieu ce qu'il est, le quid est. Toutefois, dans notre doctrine, nous utilisons à la place d'une définition pour traiter de ce qui se rapporte à Dieu, les effets que celui-ci produit dans l'ordre de la nature ou de la grâce. Comme on démontre en certaines sciences philosophiques des vérités relatives à une cause au moyen de son effet, en prenant l'effet à la place de la définition de cette cause. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas très compréhensible. Il est vrai, nous ne pouvons pas savoir ce qu'est Dieu dans sa nature. Ça, c'est facile à comprendre. Toutefois, dans notre doctrine, donc en théologie, nous utilisons à la place d'une définition pour traiter de ce qui se rapporte à Dieu. Je ne connais pas le quid de Dieu, donc je ne définis pas Dieu. Alors, chaque fois que je parle de Dieu, j'utilise les effets que celui-ci produit dans l'ordre de la nature ou de la grâce. Vous voyez bien la différence. À la place de prendre Dieu comme une définition et à partir de là chercher les propriétés de Dieu, je prends au contraire les effets que celui-ci produit dans l'ordre de la nature ou de la grâce. Comme on démontre en certaines sciences philosophiques des vérités relatives à une cause au moyen de son effet, en prenant l'effet à la place de la définition de cette cause. Vous voyez la question. Impossible de dire que Dieu est le sujet de cette science, puisque je ne peux pas définir ce que c'est que Dieu. Or, dans une science, Aristote le dit dans les analytiques, la définition joue un rôle très important, puisque on cherche les propriétés. Une science, on la voit pleinement dans les conclusions. Une conclusion représente une connaissance scientifique. Quelle est la conclusion de la théologie? Au moins une conclusion de la théologie. Dieu est tout à fait saint. Ça, c'est la conclusion de la question 3. Dieu est tout à fait saint. Or, pour qu'il y ait science, il suffit d'une seule conclusion. Une seule conclusion suffit d'un mot de connaissance scientifique. La multiplicité des conclusions ne m'ajoute rien du tout. Donc, je peux prendre et analyser cette conclusion, cette connaissance scientifique, pour dire, il y a là connaissance scientifique. Bon. Il y a connaissance scientifique à quel moment? Vous connaissez suffisamment les analytiques d'Aristote. Il y a connaissance scientifique quand vous connaissez la cause. C'est une connaissance per causam, le propre de la connaissance scientifique. Donc, lorsque vous connaissez la cause qui permet de relier l'attribut, vous attribuez tout à fait simple à Dieu. Dieu le sujet. Il y a connaissance scientifique dans la mesure où je connais la cause. Or, Dieu n'est pas... Je ne connais pas Dieu comme cause. Pour connaître Dieu comme cause, il faudrait connaître le quid de Dieu, ce qu'est Dieu. Je ne sais pas ce qu'est Dieu. Si je ne sais pas ce qu'est Dieu, je n'ai pas une connaissance du quid de Dieu. Je ne peux pas donc avoir une connaissance scientifique dont Dieu est le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ce sujet? Vous êtes cuit, hein.
Je réponds que par la démonstration a posteriori, on ne parle pas, on a une démonstration sans une connaissance scientifique de ce que Dieu n'est pas.
Alors, en fond, vous n'avez pas de conclusion. Vous avez une conclusion négative, ce n'est pas une conclusion.
La simplicité, c'est négatif.
Ah non, c'est positif. Dieu est tout à fait simple. Ah, il conclut la dernière conclusion, c'est qu'il s'est servi d'un tas d'intermédiaires, mais la dernière conclusion, c'est omnino simplex, c'est pas négatif ça. Hein. Omnino simplex, c'est une éminence, c'est une éminence, omnino simplex. Quoi ? Oui, mais après la causalité. Ça ne serait une connaissance scientifique, ça ne peut être qu'une connaissance scientifique que dans la mesure où je passe par une cause, pas moyen autrement. Qu'est-ce que c'est que la science pour Aristote ? Connaissance par mode par les causes. Alors, faites un petit pavé là. Saint Thomas a dit que la théologie est une connaissance scientifique subalternée. Hein ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Connaissance scientifique subalternée à la connaissance des saints. J'accepte de ne pas connaître la cause. Mais je m'appuie dans la foi sur la connaissance de quelqu'un qui connaît la cause. Les bienheureux connaissent Dieu dans l'évidence. Donc, connaissant Dieu dans l'évidence, ils peuvent comprendre tout ce qui est attribué immédiatement à Dieu. Moi, je ne peux pas, je m'appuie dans la foi, donc c'est par la foi. C'est la foi qui remplace la cause. Il ne faut pas oublier. C'est ça qu'il faut dire, hein. C'est la foi qui remplace la cause. Mais si la foi remplace la cause, très bien, j'ai une connaissance de foi, je n'ai pas une connaissance scientifique. Ah, la foi remplace la cause, c'est très vrai, mais ça reste une connaissance par mode d'argumentation, comme il le dira, ou, comme dit saint Thomas, à la place de l'effet, à la place de la cause, je prends l'effet. Alors vous allez tout de suite comprendre. Hein. Maintenant que vous avez vu l'objection, vous allez comprendre la réponse. Toutefois, dans notre doctrine, nous utilisons à la place d'une définition, c'est-à-dire la cause, la définition, je ne peux pas définir Dieu, je ne connais pas le puits de Dieu, donc je ne peux pas définir. Donc, à la place de la définition, pour traiter ce qui se rapporte à Dieu, les effets. Ah, alors c'est pour ça que vous faisiez allusion à toutes les négations antérieures, les effets. Je me sers des effets. De toutes les compositions qui existent dans les réalités. Je me sers des effets. C'est tout regardé comme des effets de Dieu. Et je regarde la différence entre ces effets et Dieu. Donc je me sers des effets que celui-ci produit dans l'ordre de la nature et de la grâce, comme on démontre en certaines sciences philosophiques des vérités relatives à une cause au moyen de son effet. En prenant l'effet à la place de la définition de cette cause. Donc, à la place de la cause, je m'appuie sur la foi, qui me donne un contact direct avec Dieu. Très bien. Je sais que Dieu existe dans la foi. Donc, Dieu est tout à fait simple. Comment puis-je attribuer tout à fait simple ? Si j'avais une connaissance de Dieu, dans sa définition, je pourrais immédiatement conclure. Le triangle, deux angles, les angles du triangle, n'est-ce pas, je veux dire les grands angles du triangle, les garçons. Je conclue. Par la définition même du triangle, je me sers de la définition du triangle pour la conclusion. Ici, je n'ai pas la connaissance de Dieu. Je ne connais pas Dieu en lui-même, son cuir. Mais je connais Dieu à partir des effets. Vous voyez comme c'est intéressant, ça prouve que la démonstration d'existence de Dieu est dans la structure même de toute la science théologique. Le per modum causalitatis. C'est bien ce qu'il me dit ici. À la place de la cause, je me sers des effets. Je vois le lien qui existe entre les créatures et Dieu, et voyant ce lien, per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae, je peux me servir des effets pour comprendre ce qu'est Dieu, pour comprendre ce qu'est la cause. D'habitude, je vais de la cause aux propriétés, ici pour affirmer une propriété de Dieu, puisque je n'ai pas la connaissance directe de Dieu. Je me sers des effets. C'est toute la structure de la question 3, et donc de toutes les négations par rapport à la composition de l'effet, qui remplace la connaissance de la cause, la définition de Dieu, et qui me permet de conclure au terme Dieu tout à fait simple, voie l'éminence. Il y a la causalité, la négation, l'éminence. Donc les effets remplacent la connaissance de Dieu. Et ça, c'est assez beau comme manière, parce que ça, c'est des objections qui sont aujourd'hui plus que courantes. Hein. Pas de discours sur Dieu, puisque je ne connais pas ce qu'est Dieu. Est-ce qu'on vous en dira ça nettement? C'est lié en objection, les atomes. Au terme, Dieu tout à fait simple, voie l'éminence. Il y a la causalité, la négation, l'éminence. Donc, les effets remplacent la connaissance de Dieu. C'est assez beau comme manière, parce que ça, c'est des objections qui sont aujourd'hui plus que courantes. Hein. Pas de discours sur Dieu, puisque je ne connais pas ce qu'est Dieu. Est-ce qu'on vous en dira ça nettement? C'est lié en objection, les saint Thomas. Et saint Thomas répond. Et saint Thomas répond en montrant que le statut de cette science est tout à fait particulier. Puisque je n'ai pas la définition du sujet, je ne peux pas donc directement attribuer tel ou tel attribut à Dieu. Mais j'ai la connaissance des effets. Et la connaissance des effets me permet de remplacer la définition de la cause.
Oui. En métaphysique, par exemple, je n'ai pas de définition de la cause.
Ah oui, j'ai la connaissance de ce principe. J'ai la connaissance, c'est, peu importe, mais la définition est prise là de façon très large. Hein, parce qu'il n'y a pas de définition d'une cause. C'est le cuivre, tout simplement. Vous voyez ? Alors c'est pris définition de façon très large. Bon, en métaphysique, je sais ce que c'est que la substance. Je sais ce que c'est que l'acte. À partir de l'acte et à partir de la substance, je peux conclure l'être est un. Oui, c'est la seule conclusion de la vie. Là, les propriétés de l'être. Oui. Oui, c'est parce que j'en ai l'évidence. Hein.
Oui,
j'en ai l'évidence. Je peux définir ce qu'est l'usia, mais définir entre guillemets. Hein. Vous voyez, pas définir au niveau de chez, analogie de chez. Oui, je peux définir ce que c'est que la substance parce que j'ai l'évidence du principe de la substance. Oui. Alors à partir de là, je peux déduire l'un des propriétés de l'être. Donc je relis pour que vous voyez bien, parce que c'est important, c'est toute la structure de la connaissance théologique que je m'en ai donné ici. Il est vrai, nous ne pouvons pas savoir de Dieu ce qu'il est. Il faut l'affirmer modestement. Toutefois, dans notre doctrine, nous utilisons à la place d'une définition, donc à la place d'un principe, pour traiter ce qui se rapporte à Dieu, tout à fait simple, les effets que celui-ci produit dans l'ordre de la nature et de la grâce, comme on démontre en certaines sciences philosophiques, alors c'est certaines sciences philosophiques, c'est intéressant de savoir, des vérités relatives à une cause au moyen de son effet, en prenant l'effet à la place de la définition de cette cause. Mais ce serait toutes les conclusions d'ordre de sagesse, jugement de sagesse. Alors, je sers des effets à la place de la cause. Deuxième objection. Tout ce dont on traite dans une science est compris dans son sujet. Or, n'est-il pas question dans la Sainte Écriture de bien d'autres choses que de Dieu? Par exemple, des créatures, des mœurs humaines. On traite du mariage d'Isaac, de Rebecca. entrait Dieu. Cette question-là, ce n'est pas Dieu, ça. Par conséquent, Dieu n'est pas le sujet de cette science. Ça aussi, c'est très intéressant. Quant aux divers objets autres que Dieu, dont il est question dans la Sainte Écriture, il se ramène à Dieu lui-même, non point à titre de partie, d'espèce ou d'accident, mais comme se rapportant à lui de quelque manière. À lui quoi Dieu ? Tout simplement parce que c'est révélé par Dieu. En tant que c'est révélé par Dieu, ça lui donne une certaine signification de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans le Coran. Bon, vous voyez bien ça, hein, je crois. C'est très important, je vous dis, à bien saisir, parce que ça nous permet de saisir ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à cette science, c'est qu'à la place d'avoir la cause, je me sers des effets. Or, ceci est montré de manière explicite dans la question 2 de la somme, quand saint Thomas montre comment, à partir des effets, je remonte jusqu'à la cause. Donc, on peut dire que cette question 2 légitime toute la question de la science théologique. Je prends d'une autre manière. Si mon intelligence est incapable de remonter jusqu'à l'existence de Dieu à partir des effets, il n'y a pas de connaissance théologique scientifique. Puisqu'il n'y a plus de démonstration, vous voyez, il n'y a plus de facilité. Je n'ai ni le cuide, ni le cuide, ni les effets, donc il n'y a plus rien. Tandis que les effets remplacent le cuide. Alors, article 8. Cette doctrine argumentaire. L'apôtre parlant de l'évêque, c'est extraordinaire, hein, comme ça, comment. L'apôtre parlant de l'évêque dit qu'il soit attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, afin d'être en état d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre les contradicteurs. Donc, l'évêque doit être théologien. C'est ça que saint Thomas veut dire. « De episcopo, amplectante eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potens sit, exhortari, in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere. » Alors voici le raisonnement de saint Thomas. Les autres sciences n'argumentent pas en vue de démontrer leurs principes, mais elles argumentent à partir d'eux pour démontrer d'autres vérités comprises dans la science. Ainsi, la science sacrée ne prétend pas, au moyen de l'argumentation, prouver ses propres principes, qui sont des vérités de foi. Mais elle les prend comme point d'appui pour manifester quelque autre vérité, comme l'apôtre, dans la première épître aux Corinthiens, prend appui sur la résurrection du Christ pour prouver la résurrection commune. C'est intéressant parce que saint Thomas montre là que dans la révélation, il y a une théologie. Oui. Alors ceci est très intéressant, vous voyez, parce que ça fait comprendre pourquoi jusque-là il a toujours montré la nécessité de la théologie par la révélation, puisque la révélation contient la théologie. La théologie ne contient pas la révélation, mais la révélation contient la théologie. Jean le théologien. Et là, il s'agit de saint Paul. Toutefois, il faut considérer ceci. Dans l'ordre des sciences philosophiques, les sciences inférieures non seulement ne prouvent pas leurs principes, mais s'abstiennent de disputer contre qui les nie, laissant ce soin à une science plus haute. Très important, ça. La plus élevée de toutes, au contraire, qui est la métaphysique, heureusement que saint Thomas le dit, n'est-ce pas ? La plus élevée de toutes, au contraire, qui est la métaphysique, il faut la saluer très bas, dispute contre celui qui nie ses principes,
à supposer que le négateur concède quelque chose, et s'il ne concède rien, elle ne peut discuter avec lui, mais elle peut résoudre ses arguments. Résoudre ses arguments, c'est-à-dire montrer que tous ses arguments ne tiennent pas. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui affirme Dieu sans l'être, vous ne pouvez pas arguer contre lui, mais vous pouvez montrer que ses arguments ne tiennent pas. C'est ce qu'il faudrait faire. Il ne s'agit pas de lutter, non, puisque il affirme Dieu tout à fait différent des autres affirmations. On ne peut même pas dire que Dieu existe, puisque Dieu est sans l'être. C'est ça qu'il faudrait lui dire. Est-ce que vous acceptez ? C'est ça que saint Thomas montre ici. S'il ne concède rien, elle ne peut discuter avec lui, mais elle peut résoudre ses arguments. La science sacrée, donc, n'ayant pas de supérieur, devra elle aussi disputer contre celui qui nie ses principes. Elle le fera par le moyen d'une argumentation, si l'adversaire concède quelque chose de la révélation divine. C'est ainsi qu'en invoquant des textes qui font autorité de la doctrine sacrée, nous disputons contre les hérétiques, utilisant un article de foi pour combattre ceux qui en nient un autre. Que si l'adversaire ne croit rien des choses révélées, il ne reste plus de moyens pour prouver par raison les articles de foi, mais pour réfuter les raisons qu'il pourrait opposer à la foi, comme en effet la foi s'appuie sur l'infaillible vérité et qu'il est impossible de démontrer le contraire du vrai, il est manifeste que les arguments qu'on apporte contre la foi ne sont pas de vraies démonstrations, mais des démonstrations solides. Donc vous voyez ce que saint Thomas nous dit ici.
Il montre d'abord, toute science ne doit pas prouver ses principes. Seule la sagesse doit pouvoir répondre à ceux qui l'attaquent. Et la sagesse doit pouvoir défendre ses propres principes. C'est le propre de la sagesse. Or, la théologie est sagesse, nous l'avons vu, donc elle doit défendre ses propres principes. Elle les défend de deux manières. Elle les défend en face de ceux qui acceptent la révélation. On dirait aujourd'hui les protestants. Les protestants acceptent la révélation, mais ils n'acceptent pas toute la révélation. Alors il s'agit de montrer, à partir des principes qu'ils acceptent, que tous les autres principes doivent être acceptés, que toutes les autres révélations doivent être acceptées. À partir du principe « la foi justifie », puisque c'est le grand principe de Luther, on doit pouvoir montrer tous les autres aspects. Si on est suffisamment lié, si on a une science suffisamment nette, on montrera que tout, parce que tous les principes de la théologie se tiennent. Il y a quelque chose d'organique. Alors évidemment, c'est pas toujours commode, parce que voir le lien entre telle révélation et telle autre révélation, c'est pas toujours commode. Mais au fond, c'est là où on voit très bien comment la doctrine, la théologie comme sagesse, doit pouvoir, à partir de ceux, les adversaires qui acceptent en partie la révélation, leur montrer qu'il n'y a pas de raison de ne pas accepter en totalité. Si vous acceptez en partie, vous devez accepter en totalité. Parce que ce n'est pas vous qui êtes le juge de la révélation. Deuxièmement, en face de ceux qui nient toute révélation, il faut leur montrer que leur opposition n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que la révélation nous donne la vérité. Donc tous ceux qui luttent contre la vérité disent des bêtises. Donc, il faut montrer leur bêtise.
C'est ça l'argument de saint Thomas. Bon, je crois que ça, c'est facile à comprendre. Comment cette théologie doit donc être une théologie qui au fond, qui se sert de l'argumentation.
La fois prochaine, ce sera une question très intéressante. La Sainte Écriture doit-elle user de métaphores? Puis ensuite, ce sont les sens de l'Écriture. Tous les sens de l'Écriture. Puis alors, au terme, nous essaierons de résumer un peu et de voir ce qui est impliqué dans cette question par rapport à la foi et à l'intelligence. Pour ensuite, si vous êtes d'accord, puisque nous essayons de voir foi et intelligence, ensuite, voir le traité de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Ceux qui l'ont déjà fait, ce sera très bien, ils le referont. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est une chose absolument nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est voir la foi, là. Et puis alors, voir comment le point de vue de la foi va nous permettre de comprendre le lien entre l'intelligence et la foi.